C'est formidable de vous voir après cette période de vacances. C'est la reprise, et y compris la reprise de la vie politique. Parmi nous, ceux qui sont habilités à voter viennent de recevoir tout un paquet de documents pour la votation dans 3 semaines. 2 initiatives fédérales et 1 initiative cantonale nous sont soumises. Voter, participer aux élections des autorités est un acquis dans la plupart des pays européens. Nous déterminons, au moins en partie, comment nos autorités nous gouvernent. La situation était très différente au 1er siècle lorsque l'Église se formait. Le livre des Actes et les épîtres qui nous en parlent ont été écrits dans l'Empire romain. L'Empire antique, la Rome antique, était polythéiste et vénérait un grand nombre de dieux. Sur cette image, les vestiges d'un temple dans le Forum à Rome. L'Église, les chrétiens, devaient trouver leur place dans cette société. Et parfois, c'était d'une façon assez surprenante, comme ici ou plus tard, une église a été bâtie au sein de l'ancien temple. La structure de l'Empire romain était problématique pour les chrétiens. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur était honoré comme Dieu. C'était des rituels, prières, des sacrifices en l'honneur de l'empereur. Et ceci était organisé dans l'ensemble de l'Empire. Et ça a donné une sorte de communauté un peu plus soudée par cette vénération de l'empereur. Donc, le culte de l'empereur posait un problème aux chrétiens. Mais finalement, les chrétiens bénéficiaient d'une situation un peu favorable, au moins au début. Et c'est à cause de la nation juive qui jouissait des privilèges exceptionnels. L'exercice de la religion juive était légalement garanti. C'était une religion quasi officielle ou reconnue. Et toutes les pratiques religieuses qui les distinguaient des païens étaient autorisées. Les édits romains garantissaient cette pratique, le respect du sabbat, le droit de ne pas adorer les images taillées. Et il y avait une liberté totale sur les lois alimentaires qui étaient essentielles pour les Juifs. Ça allait même très loin. La loi juive défendait aux non-juifs d'entrer dans la cour intérieure du temple. Si un Romain, donc un citoyen romain, le faisait, il pouvait être condamné à mort à cause de cette interdiction. Alors, les chrétiens ont bénéficié pendant les 30 premières années après la mort du Christ de cette situation. Finalement, ils étaient considérés comme un peu attachés à cette religion juive. Et le livre des Actes nous raconte un événement qui le démontre. Pendant les Juifs accusaient Paul devant Gallion, qui était le proconsul d'Achaïe, de propager une religion illégale. Et il l'amène, donc pendant que Gallion était gouverneur à l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisaient devant le tribunal en disant: cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit, il coupe court, hein, s'il s'agit d'une justice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, juif. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms ou sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de vos affaires. » Et il les envoya du tribunal. Donc finalement, les chrétiens bénéficiaient de ce statut spécial des juifs dans l'Empire romain. La décision de Gallion, c'est intéressant, a servi de précédent dont Paul même a utilisé plus tard, donc où il a fait appel au fait qu'il était juif. Bien qu'il bénéficiait de cette situation spéciale et d'une certaine bienveillance, la situation n'était pas facile pour eux. Il faut se rendre compte que le christianisme a commencé avec un lourd handicap. Son fondateur a été jugé et exécuté. Sa charge, c'était qu'il était le roi des Juifs. Et souvent, le Christ pouvait être présenté comme instigateur d'un mouvement qui défiait les autorités romaines. Le livre des Actes nous parle des événements qui se sont passés à Thessalonique, où les chrétiens étaient justement présentés comme instigateurs de mouvements défiant l'autorité du César. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Les Juifs restaient incrédules, traînèrent à ce moment-là Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Et en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur, et en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Donc la situation n'était pas aussi favorable que ça dans toutes les circonstances. Ça, c'est à peu près la situation quand Paul écrit l'épître qu'il adresse aux Romains. Donc, il écrit à peu près l'an 57-58 après Jésus-Christ à une église où la majorité des membres sont d'origine non-juive. L'épître aux Romains est un condensé de l'Évangile. Paul y aborde des sujets clés. La foi seule justifie. Le Christ délivre de la mort. Il parle de la vie dans l'esprit. Il parle de la grâce qui est donnée à tout homme qui croit en Jésus. Après toute cette explication, tout ce que la foi représente, Paul explique comment les hommes et les femmes qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ devraient vivre. Et il décrit aussi dans ce texte leur relation avec les autorités. C'est intéressant, Paul écrit ces recommandations que nous allons lire lorsqu'il se trouve à Corinthe. Et c'est très probablement après les événements à Thessalonique, dont nous venons entendre de parler, donc où les relations avec les autorités ne sont pas toujours aussi optimales que ça. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit sur les autorités ? Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Dans ce texte, qui est ici dans la version second 21, ça ne ressort pas aussi clairement, mais lorsque le premier verset dit que chacun se soumette, le terme qui est utilisé en grec, c'est celui qui décrit l'âme, ce que nous représentons, psyché. Donc ça veut dire que c'est de notre identité telle que personne que nous devons respecter les autorités. Ce n'est pas une obligation comme ça secondaire donnée à chacun. La mention de l'épée, aujourd'hui, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, celui qui porte l'épée, en fait, c'est l'autorité qui dispose du pouvoir de punir. Et il est intéressant que dans ce passage, Paul souligne une hiérarchie. Dieu est le fondement de toute autorité et ceux qui exercent une autorité le font en vertu du pouvoir qui leur a été délégué. Maintenant, le devoir envers les autorités implique aussi ce que nous appelons aujourd'hui les impôts. Enfin, payer ce qui est dû aux autorités. En Israël, sous règne romain, les impôts étaient un sujet douloureux et il y avait un système extrêmement complexe. Les hommes des régions qui étaient conquises devaient payer en monnaie romaine un impôt par tête. Ensuite, les commerçants, lorsqu'ils transportaient les biens, devaient payer des péages. Et c'était à chaque fois qu'ils passaient d'un territoire à un autre. Donc c'était, selon les sources, entre 2,5 et 5% de la valeur. Mais si on traversait une bonne région, sur le territoire habité par le peuple juif, ça pouvait remonter, totaliser pour 20 à 40% de la valeur des biens. Et le péage, à l'époque, était un sujet très sensible. Donc, il était payé, pas par les Romains, mais par les personnes des territoires conquis. Et ils étaient introduits peu de temps après un recensement qu'on appelle le recensement de Quirinus. Ça sonne peut-être une cloche. Ça s'est passé peu de temps après la naissance de Jésus, ce recensement. Et l'introduction de ces impôts était suivie des émeutes qui étaient extrêmement violentes et où il y avait beaucoup de morts. Donc, parler des impôts, de toutes sortes d'impôts, réveillait des sentiments extrêmement forts. Des personnes qui ont vécu ça, ils en étaient extrêmement bouleversés. Mais qu'est-ce que dit alors Paul ? Est-ce qu'il dit, bon, il faut considérer ce qu'on paye comme impôts, on peut protester ? Non. Il dit, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, impôt à qui vous devez impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est un texte qui est assez clair, on doit payer les impôts. Mais ce qui est particulier dans ce verset, c'est de nouveau l'utilisation d'un terme. La traduction nous dit « les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction ». Et le mot qui décrit cette fonction, c'est un mot très fort qui a donné en français plus tard le nom de liturgie. Donc c'est un service finalement pour Dieu avec un dévouement. Donc c'est... De nouveau, Paul parle d'une situation délicate, mais il est très clair et utilise des mots forts pour accentuer son message. Paul recommande le respect des autorités. Et il le fait en partant d'une situation où les autorités étaient relativement justes, où on peut considérer qu'il faisait un service de Dieu. Paul n'aborde ici pas la question « qu'est-ce qu'il faut faire si les autorités sont injustes ou mauvaises ?» Et il est intéressant que c'était moins une décennie après que Paul a écrit cet épître que la situation des chrétiens, surtout à Rome, s'est péjorée. Et ensuite, vers la fin du 1er siècle, il y avait des franches persécutions. Mais Paul l'écrit ça dans une autre situation. Alors, ça, c'est la situation lorsque Paul a écrit cette lettre. Est-ce que c'est toujours valable pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons en prendre? Quelle attitude devons-nous avoir face à nos autorités? Est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que nous pouvons les considérer comme des serviteurs de Dieu? Par rapport à Rome, nous sommes dans une situation différente. La Suisse et la plus grande partie de l'Europe est marquée par un héritage chrétien. On voit des églises, des bâtiments historiques qui en témoignent un peu partout. Aussi, notre constitution en témoigne. Et ce n'est pas que le passé. Selon les statistiques fédérales récentes, nous vivons dans un pays qui est majoritairement chrétien. Une petite majorité, des personnes qui vivent en Suisse se disent de religion chrétienne, 58% selon le recensement 2024. 33% se disent sans confession. Nos autorités, au niveau fédéral, cantonal, communal, sont élues. Donc, nous avons quelque chose à dire sur qui y va, même si notre voix, parfois, peut compter peu. Nous sommes probablement d'accord avec beaucoup de choses que nos autorités font, bien que certains aspects, les avis divergent. C'est le cas, je cite ça comme exemple, dans le domaine médical, il y a des différences sur l'interruption de grossesse, sur le suicide assisté. Il n'y a pas toujours un accord complet, mais nous avons la liberté d'agir. Finalement, dans cette situation aujourd'hui, si nous devrions suivre les recommandations de Paul, quoi faire? Alors, une première chose, c'est que Nous devrions nous engager dans la société civile. Nous pouvons le faire politiquement, comme Jean-Luc Chollet l'a fait pendant de nombreuses années. Nous pouvons nous engager comme des partenaires dans les différentes démarches, par exemple, comme nous le faisons dans notre démarche de reconnaissance. Donc ça, c'est des actions dans la société civile qui sont précises. Mais une chose que nous devons faire après la lecture de ce texte, c'est prier pour nos autorités. Et nous pouvons prier pour deux aspects différents. Un, c'est comme Paul en parle à Timothée, dans la première épître qu'il adresse à Timothée. Il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Donc, prier pour les autorités afin que la situation favorable perdure pour les églises, pour notre liberté de pouvoir louer Dieu. Mais il y a un autre aspect pour lequel nous devrions prier. Nous devrions prier pour les autorités afin qu'elles puissent exercer leur fonction, leur ministère, la chose qui leur a été confiée par Dieu. Et ça, c'est exactement ce que Paul dit. Ils ont un mandat et nous pouvons prier pour eux pour qu'ils puissent exercer correctement leur mandat. Je ne vais pas clore cette prédication avec une prière parce qu'avec Vincenzo, avec Jean-Luc, on voulait vous proposer un moment de prière pour nos autorités.